Radio Django, la rose des vents.
Bonsoir Anouche.
Bonsoir Fabien.
Et sur Radio Django, on va continuer cette émission avec toi à 18h18. Tu es rédactrice, Anouche, à Voix d'Exil, et on va parler ensemble ce soir de vulnérabilité psychologique des enfants de migrants.
Oui, tout à fait. On parle souvent de migration, mais rarement des enfants qui accompagnent leurs parents et qui font face à des difficultés migratoires. Qui est l'enfant de migrant? Est-il aussi un migrant? Ou fait-il partie de la culture et de la société de nouveaux pays, là où il est né et où il a grandi? D'une part, les abstractions juridiques ne permettent pas de reconnaître ces enfants comme citoyens du pays de résidence. Et d'autre part, la réalité, c'est que ces enfants ne connaissent que leur pays de résidence et pas leur pays d'origine. Souvent, ces enfants souffrent de problèmes psychologiques et les solutions ne sont pas faciles à trouver sans l'aide des professionnels.
Et pour en parler ce soir de ces réalités, ma foi, contradictoires que vivent ces enfants, tu as invité un spécialiste de la branche, Bernard Hunziker. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue sur notre plateau de Radio Django.
Bonsoir Monsieur Hunziker, vous êtes psychologue et responsable pour les mineurs non accompagnés au service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent du CHUV. Monsieur Hunziker, le terme de migrant désigne selon l'UNESCO, je cite, « toute personne qui vit de façon temporaire ou permanente dans un pays dans lequel il n'est pas né et qui a acquis d'importants liens sociaux avec ce pays ». Selon cette définition, les enfants des migrants qui sont nés par exemple en Suisse et qui ont donc grandi et créé des attaches ici, restent-ils selon vous des migrants?
Merci de l'invitation. Non, je trouve cette définition très restrictive. C'est que le lieu où on est né était à l'origine, au 19e siècle, l'État-nation. On était français ou suisse de naissance. Maintenant, on est dans une époque de mondialisation avec des identités multiples, des attaches très diverses. Et je pense que cette définition, elle est très incomplète parce qu'on peut être dans une famille d'immigrés, né en Suisse, garder une très très forte culture locale, n'avoir pas de papier en Suisse, qui modifie quand même beaucoup l'identité, qui fait qu'on reste un migrant, même si on est né ici, et d'autres migrants qui sont venus ici, que ce soit français, américain, ou même de pays beaucoup plus loin, qui s'intègrent extrêmement bien, puis qui ont vraiment une biculturalité complète, ça veut dire qu'ils sont pleinement d'ici et pleinement d'ailleurs. On peut tout à fait avoir deux identités, des identités métissées ou multiples.
Et quelles sont les racines que tisse un enfant avec le pays d'accueil?
Les racines, c'est un grand mot. Il a des camarades, il a une langue dans laquelle il échange au quotidien. Il a le volume sonore, il a la sécurité ou pas. On est dans des pays ici où les enfants jouent moins dehors parce qu'on est beaucoup en sécurité. Il y a des cultures beaucoup plus libres, peut-être même celles que j'ai vécues il y a 45 ans, où les enfants étaient beaucoup plus libres et bougeaient plus. Et je pense que la culture, c'est un ensemble de choses très difficiles à définir. Mais on peut peut-être parler déjà de langue, de mode de camaraderie, de fonctionnement de famille, de manière tout simple, qui sont d'ailleurs même en Suisse dans une variété culturelle assez importante.
Et si on parle de l'âge, à partir de quel âge les enfants commencent vraiment à approfondir ces racines, cette attache culturelle?
Moi, je pense que l'école est un immense facteur d'intégration. Il y a des fois des garderies plutôt, mais on sait que les familles migrantes ont peu accès globalement aux APEMS et aux garderies avant l'école enfantine, qui pose des gros problèmes. C'est que beaucoup arrivent à l'école enfantine en ne sachant pas la langue, en n'ayant jamais joué avec nos jouets d'habitude, et ils sont presque en retard sur ceux qui ont déjà eu une énorme stimulation à la maison et dans ces lieux-là. Moi, j'ai travaillé avec des institutrices qui disaient qu'elles devaient faire du drill avec les jeunes de 4 et 5 ans pour leur faire rattraper leur retard de ce qu'ils n'avaient pas eu aux garderies précédemment. Donc, on tombe dans des rôle d'aberration, mais qui montre que la culture, des fois à la maison, avec des femmes qui sortent peu, des fois tenues plus ou moins de l'interdit de sortir, donne déjà une impression sur le repli familial très très important par rapport à d'autres qui sont beaucoup plus ouvertes et qui ont les moyens de sortir. La question économique est évidemment centrale aussi dans la découverte du monde.
Et dans votre pratique professionnelle, vous rencontrez passablement des familles migrantes. Quels sont les principaux problèmes que rencontrent les enfants dans leur développement psychologique?
Moi, je tiens beaucoup à dire qu'énormément d'enfants migrants vont bien. Je crois qu'il faut d'abord le rappeler.
Bon, c'est réjouissant.
Bah, oui, beaucoup de la migration est un phénomène qui a toujours existé. Beaucoup d'enfants et d'adultes ont d'énormes moyens d'adaptation et ça se passe bien. Alors, Des fois, ça coûte un peu cher au niveau économique, au début, au niveau permis, des instabilités, mais ça se passe bien. Donc, migration n'est pas égale à problème. Dans le département de psychiatrie, on tient beaucoup à avoir le minimum d'unités pour migrants, parce que migrants, ce n'est pas une pathologie. C'est un phénomène normal. Donc, après, on peut trouver certains troubles. Alors, il y a les mêmes troubles que les autres. Il y a des troubles du développement, des dyslexies, des différentes choses de ce genre qu'on peut trouver. Puis, ce n'est pas parce qu'ils sont migrants qu'ils.
Ce ne sont ma foi que des humains.
Comme tout comme nous. Puis après, on peut avoir des questions qui sont souvent liées, je dirais, à l'instabilité de ce qu'on peut vivre dans la famille. C'est-à-dire des familles qui ont été déchirées par l'exil, qui ont vécu des traumas, qui sont en insécurité parce qu'elles n'ont pas les papiers pour rester, qui sont en instabilité. Où effectivement, la priorité des parents, c'est d'arriver à à nourrir leurs enfants, à trouver les moyens d'existence et tout. Ils ont évidemment moins de temps pour s'occuper directement de l'enfant. Et les enfants ressentent immédiatement l'angoisse. Et ça, ça peut entraver leur développement. Et souvent, c'est un travail de sécurité. De travail sur la sécurité, sur les besoins de l'enfant, mais on ne peut pas demander tout aux parents non plus, parce qu'ils vont au plus urgent, au plus pressé. Et c'est vrai que les enfants, déjà, si on leur donne un toit, un lit, la nourriture régulière et tout, le reste, ben, ils s'en occuperont quand ils pourront, quand ils auront la sécurité pour.
Et quand on dit souvent que voilà, l'intégration et l'adaptation sont plus faciles pour les enfants que pour les adultes, j'aimerais bien savoir, est-ce que c'est autant facile qu'on le croit et... Est-ce que c'est vraiment autant facile pour les enfants? Parce que quand même, il y a des changements, changements de place, de la famille, de l'entourage, des amis, comme vous avez dit tout à l'heure.
Alors, autant facile, je ne pense pas. C'est peut-être plus facile, parce qu'ils sont de fait intégrés dans les écoles. Ils ont de fait des camarades, ils ont de fait un bain de langage. Comme leur cerveau est encore en maturation, comme leur personnalité, bah, ils vont tisser des liens avec leur environnement immédiat. Quand on est adulte, bah, on est déjà un peu rigidifié dans une langue, dans une culture. On sait tous qu'apprendre une deuxième langue à partir d'un certain âge est assez compliqué. Les enfants, de fait, dans un bain de langage, ils y arrivent plus vite. Donc, ils ont des facilités. À partir de là, il y en a qui le font sans aucun problème, qui arrivent à aligner plusieurs langues, des rapports comme ça, et d'autres où on sent que ça bloque. Est-ce que parce qu'ils ont l'impression de trahir la famille quand ils sont à l'école et qu'ils parlent une autre langue? Est-ce qu'ils sont en permanence inquiets pour leurs parents à la maison dont ils ont l'impression qu'ils vont mal quand ils sont à l'école? Donc, ils sont préoccupés par la situation de la famille, ce qui les empêche de s'investir. À partir de là, on a toutes les situations possibles.
Monsieur Onziker, après quelques années d'études dans l'école suisse, il se peut que l'enfant soit obligé de quitter le pays qu'il considère comme sa patrie, où il a déjà son monde, comme on a dit tout à l'heure, tous ses camarades, ses activités, son programme d'études même, parce que le système scolaire en Suisse est tout à fait différent. À quelles difficultés de réintégration scolaire, surtout dans leur pays d'origine, peuvent-ils être confrontés l'enfant? Parce que c'est tout à fait différent, c'est deux mondes différents. Voilà.
À partir de là, on peut toujours le voir comme deux choses opposées. Soit il ne sait pas la langue du pays dans lequel il va retourner. Dans ce cas-là, il est un primo-migrant. La famille peut vivre le retour comme une catastrophe, sans sécurité, arriver dans des conditions matérielles dramatiques. Et à ce moment-là, bah, c'est un choc, c'est une perte d'à peu près tout. Et le risque, effectivement... De retrouver difficilement des accrochages pour tenir le coup, pour apprendre la langue et tout, peut être très, très compliqué. Si d'un autre côté, il revient dans un environnement où il a des personnes auxquelles il peut s'accrocher en sécurité, si la langue du pays d'origine a toujours été parlée à la maison et qu'il a un véritable bilinguisme dans la richesse des deux choses, il va peut-être voir ça comme une complémentarité qui peut lui permettre de se situer mieux. Ça dépend beaucoup de la... qualité et des conditions de retour. On sait par exemple que quand la Suisse a renvoyé énormément de Kosovars, bon, là-bas c'était dans des situations dramatiques, c'était des accords qui n'étaient pas respectés mais qui étaient respectés sur le papier, et c'était vraiment très très problématique. Les retours ont probablement été dramatiques pour les enfants, alors qu'on a d'autres retours qui se font des bonnes conditions, les enfants rajoutent plutôt tout ce qu'ils ont appris ici à ce qu'ils savent déjà.
Et les parents vont-ils spontanément voir un pédopsychiatre? Parce que j'explique, vous savez que dans certains pays, même n'existent parfois pas des pédopsychiatres. Voilà, il n'y a pas cette tradition d'aller voir un psychologue ou psychiatre parce que c'est considéré comme une maladie. Il n'y a pas cette tradition d'aller voir un pédopsychiatre. Comment il vient vers vous Est-ce que c'est facile là, au début?
Ben non, c'est un gros écueil parce que la psychiatrie, elle existe dans tous les pays du monde, mais sous la forme de l'asile psychiatrique, ce qui veut dire maladie mentale. Vu comment sont encore organisées aujourd'hui ces asiles psychiatriques, Quand on y rentre, on n'en sort pas. Parce que même si on n'était pas très malade, l'hôpital participe à la continuité de la maladie. Je vous recommande d'ailleurs un film magnifique qui s'appelle La Meglio Gioventù. C'est un film de 6 heures qui raconte toute une histoire de l'Italie. Et on suit un psychiatre qui participe à la transformation d'une psychiatrie asilaire catastrophique à une psychiatrie du lien. C'est un film très, très touchant. Et souvent, ils arrivent avec ces représentations de maladie mentale en disant « Mon fils n'est pas fou ». Après, ils comprennent peu à peu, souvent avec des équipes mobiles. Je suis responsable d'une équipe mobile, c'est-à-dire qu'on se déplace vers et les gens découvrent qu'au travers du lien, beaucoup de choses se passent. Et c'est dans ce sens-là qu'ils peuvent finalement approcher un petit peu les psychologues, la pédopsychiatrie dans sa forme du soin, du lien, et qui n'est pas de la psychiatrie au sens asilaire et maladie chronique du terme.
Bernard Hundziker, une dernière question. Si vous aviez aujourd'hui une baguette magique, qu'est-ce que vous feriez pour ces jeunes enfants de familles migrantes?
Oh là là. Moi, je crois qu'on leur offre déjà beaucoup de choses sur l'accueil. J'essaierai de leur faciliter les choses pour qu'ils comprennent le mieux leur environnement, la double culture. Je pense qu'on peut voir la culture. Tout à l'heure, vous parliez au début de l'émission des initiatives Schwarzenbach, à l'époque.
1968, printemps 68,
ouais. Où on devait devenir plus blanc que blanc. Là aussi, il y a quelques films tout à fait extraordinaires dans Les Faiseurs de Suisse, qui définit comment on devient suisse en devenant plus suisse que suisse. Et puis maintenant, je crois qu'on est sur le fait que c'est une très grande richesse d'avoir accès à deux cultures et de faciliter ça. Mais ça peut se faire que dans des environnements sécures. Et je suis catastrophé par une partie de la bagarre qui se passe en Suisse actuellement où pour ne pas intégrer les gens, on les met dans les situations le plus précaires possible. C'est une des politiques suisses pour qu'ils puissent repartir en disant qu'on les met dans telles conditions en Suisse qu'ils vont repartir. Il se trouve que comme c'est quand même nettement mieux que ce qu'ils vivent dans une partie du monde, ils restent. Puis de l'autre côté, heureusement, on a une application de la Convention européenne, de la Convention mondiale des droits de l'homme et de la Convention européenne des droits de l'enfant qui donne énormément de droits pour les jeunes pour les situer là-dedans. Et on est beaucoup dans une tension entre une partie du droit qui vise à déstabiliser les choses ouvertement, je crois que c'est une politique, et une partie du droit qui permet heureusement de stabiliser les choses. Alors j'insisterai beaucoup sur cette stabilisation. Et pour imaginer d'ailleurs qu'en étant migrant, on peut être d'ici et être d'ailleurs, qu'on peut faire des ponts, qu'on peut être pas tout à fait la même personne ici et là-bas. Je connais l'histoire d'une adolescente qui, en rentrant au pays, tout le monde est catastrophé parce qu'elle n'est pas mariée avec enfant à 19 ans, puis ici, elle est gymnasienne. Et si elle sait jouer avec cette double identité, c'est assez drôle. Si elle en est handicapée des deux côtés, c'est un vrai problème. Donc j'aimerais faire des ponts et surtout de la sécurité, parce que je pense que c'est à partir de là qu'on se développe bien.
Eh bien, on retiendra ces beaux souhaits. Merci beaucoup, Bernard Hundziker.
Merci pour l'invitation.
Une très belle soirée à vous. Je rappelle que vous êtes psychologue, spécialiste en psychologie de l'enfance et de l'adolescence au SUPEA et département du CHUV. Merci beaucoup, encore une fois, de nous avoir rejoints ce soir.
Merci à vous.
Une très bonne soirée. Et merci à toi, Anouche, pour la préparation de ce sujet.
Merci à toi, Fabien.
À tout bientôt. Je rappelle que tu es rédactrice à Voix d'Exil, le média d'information destiné à l'expression libre des personnes migrantes en Suisse et ailleurs. Un sujet que vous pouvez bien sûr retrouver en lecture sur le site de Voix d'Exil, voixdexil.ch, et à réécouter sur le nôtre, www.django.fm.